Bonjour à toutes et tous, vous êtes bien à l'écoute du Triple 8 de Radio Grenouille. Bienvenue dans ce 9e Trait d'Union, une série de rencontres organisées dans le cadre de Manifesta, la 13e Biennale européenne d'art contemporain qui se déroule bien à Marseille cette année. Les Traits d'Union seront diffusés chaque dimanche de 19h à 20h jusqu'à la fin de la Biennale, le 29 novembre prochain. À travers les projets discutés, ces traits d'union permettront d'aborder les grands questionnements soulevés par la Biennale en lien avec le territoire dans lequel elle s'inscrit, Marseille. Pour ce 9e trait d'union, nous avons le plaisir d'accueillir trois invités. Pierre Revel, président de l'association Rive et Culture, porteur du projet Colline en ville, qui invite habitants et visiteurs à aller à la redécouverte des collines qui cerclent Marseille, ses balcons sur la ville. Une redécouverte à travers des marches et des créations artistiques aux quatre points cardinaux de Marseille. Nous accueillons également la curatrice Clélia Coussonnet qui présente le projet Spoil Water Spilled au Ballet National de Marseille. Un projet d'exposition, de performance et de discussion centré sur la circulation organique en Méditerranée et les notions de toxicité, de circulation, d'eau, d'écologie et d'activisme plus largement. Et enfin, nous accueillons Geoffroy Mathieu qui présente le projet La mauvaise réputation à la galerie Zoem, un travail photographique sur le ruisseau des Égalades qui devient ici motif de spéculation poétique autour de questions liées à l'écologie et l'espace public. Madame, messieurs, je vous rends le micro et je vous écoute depuis la régie accompagné d'Alexandre Simonini à la réalisation de cette émission. Très très belle émission à vous.
Aux auditeurs et aux auditrices de l'émission, je suis Clélia Coussonnet, commissaire de l'exposition Spoiled Water Spilled qui s'est tenue au mois de septembre et au mois d'octobre au Ballet National de Marseille. Je suis ravie d'être ici en compagnie de Pierre et de Geoffroy pour cette émission. Je pense que nous allons beaucoup parler aussi bien de la question des ruisseaux et des rivières à Marseille que de questions écologiques, que de questions de pollution. En ce qui me concerne, l'exposition que j'ai organisée au BNM parlait particulièrement de la question de la toxicité des rivières et également de toute la question de la circulation des pollutions, notamment des polluants qui sont invisibles et la façon dont les différentes pollutions se superposent les unes aux autres. L'exposition a invité plusieurs artistes, des artistes français, des artistes internationaux également, et a également inclus des textes, des poésies, des extraits de pièces de théâtre pour faire un petit peu dialoguer différents contextes géographiques, aussi bien sur le contexte marseillais, mais aussi sur le contexte méditerranéen et également d'autres géographies. Voilà pour une petite introduction et je passe la parole à Pierre.
Merci Clélia. Pour ma part, donc Pierre, je suis habitant de l'Est marseillais. Donc l'Est marseillais, c'est la vallée de l'Uvonne, mais c'est aussi les collines du Mont-Saint-Cyr. Et donc avec l'association Rives et Cultures, nous proposons donc une redécouverte donc de Marseille avec donc au travers de ces collines qui sont présentes aussi bien à l'est qu'au nord, au sud, des petits clins d'œil, on va dire, également à l'ouest de manière plus modeste avec les îles du Frioul, seul quartier ouest de Marseille. Nous travaillons donc avec plusieurs artistes à la création d'œuvres un petit peu signales, chacune mettant l'accent sur des problématiques, des grands enjeux environnementaux ou sociaux. Nous avons travaillé avec Olivier Natt tout d'abord à l'est, vers le quartier de la Val-Barelle-Saint-Marcel, et donc une œuvre qui est visible à la cité des Néréides. Et nous poursuivrons, j'espère, le 14 novembre avec le sculpteur Roland Bélier du côté de Sainte-Marthe. Ce projet Colline en ville, je le disais, donc c'est à la fois relié symboliquement au travers les œuvres des artistes les différentes parties, les différents quartiers de Marseille ensemble. C'est aussi, bien sûr, attirer l'attention sur la fragilité de ces milieux naturels, hein, que sont les collines, mais aussi leur richesse, vraie richesse écologique. Ce projet, c'est aussi insister sur l'interdépendance des territoires. ces quatre points cardinaux, ces quatre œuvres signales, eh bien aussi indiquent des directions et des territoires avec lesquels Marseille a partie liée, que ce soit les Alpes, la Provence, ou encore bien sûr l'Afrique et la Méditerranée. Et enfin, ben voilà, je disais, ces problématiques, les grandes problématiques écologiques sont aussi au cœur de ce projet. Et donc les œuvres des artistes invitent à différentes réflexions, que ce soit la place de l'agriculture urbaine avec Olivier Natt, ou encore la place de l'eau à Marseille au nord avec Roland Bélier. Et du coup, je pense que l'eau à Marseille au nord, Geoffroy va aussi nous en parler.
Merci à toi Pierre et bonjour Clélia. Merci aussi au Parallèle du Sud et à Manifesta de nous avoir réunis. Apparemment, effectivement, on a pas mal à se raconter tous les trois, tant nos projets traitent à la fois de l'eau, des bassins versants et des problématiques écologiques qui se posent. Pour ma part, je présente un projet à la galerie et librairie Zoem, rue Vian, à côté du Courju. C'est une exposition qui présente mon immersion, on va dire, dans le ruisseau que je fais depuis 2017. 2017 étant la date d'une remontée collective du ruisseau organisée par le Bureau des guides du GR 2013 et qui a réuni bottes aux pieds, artistes, habitants, scientifiques et aménageurs pour reprendre contact avec ce ruisseau et le découvrir tous ensemble pour tenter d'en faire une réhabilitation symbolique, comme aurait pu dire Christine Breton, par exemple, qui était une exploratrice des premiers temps de ce ruisseau, et notamment de la cascade, qui se situe dans le périmètre de la Cité des Arts de la Rue. Ce projet d'exposition est accompagné d'un livre, édité aussi aux éditions Zoem, et qui sera bientôt disponible.
Et toi, Geoffroy, comment tu as été amené à t'intéresser justement au... Tu as parlé de cette marche remontée inaugurale là, du ruisseau des Égalades, mais comment tu as été amené à t'intéresser à ce territoire et à ce cours d'eau ?
Évidemment, c'est une lente évolution depuis mes premiers pas avec Baptiste Lanaspès des éditions Boyd Project. On avait fait ensemble un livre qui s'appelait Marseille Ville Sauvage à l'époque et qui est d'ailleurs réédité cette année, légèrement augmenté. Et depuis, je m'intéresse à ces espaces d'entre-deux, ces espaces de friction entre ville et nature, entre... Qui me semblent être les endroits dans nos villes dans lesquels il y a le plus de potentiel, en tout cas, d'un développement urbain plus harmonieux. Et j'avais aussi, du coup, travaillé un temps sur l'agriculture urbaine. Et étant assez proche de la famille du GR 2013, quand j'ai entendu parler de cette remontée, de cette expédition, comme ils appellent, je suis évidemment monté dans le bac.
Déjà des croisements, parce que nous, la famille, comme tu dis, là, du Bureau des guides du GR 2013, on les connaît un petit peu aussi. Aussi bien Baptiste que Julie Demuer, qui a travaillé à une époque ici, il me semble, à Radio Grenouille. On avait fait une marche, on avait enregistré avec Radio Grenouille en 2013 une promenade sonore qu'on avait intitulée Quartier Est entre Uvonne et Colline. Et voilà, donc c'était juste ce petit... ce que je voulais là souligner, c'est ces croisements là qui affleurent. Il me semble que depuis effectivement le milieu des années 2000, on a une redécouverte un petit peu de cette présence de la nature en ville à travers les cours d'eau, mais aussi au travers les collines. Peut-être un petit peu avant encore, il y avait eu déjà le développement des balades dites urbaines. Ça, je sais que ça remonte quand même, on va dire même au début des années 90, mais 1990, mais au milieu des années 2000. Moi, on parlait rapidement là tout à l'heure, mais j'étais frappé de voir qu'il y a eu une redécouverte un peu simultanée dans le temps, mais sans que ça soit coordonné entre les uns et les autres, à la fois de l'Uvonne qui est présente dans les quartiers est, et puis aussi des Égalades présentes au nord, ce que tu nous confirmer.
Oui, tout à fait. Christine Breton, c'est en 2007, je crois, qu'elle refait la redécouverte, quelque part, de la cascade et qui propose de s'en emparer, plutôt, évidemment, avec son regard patrimonial. Elle, à ce moment-là, je pense qu'elle est en train de commencer à monter Hôtel du Nord aussi. Et c'est vrai que maintenant, ce genre de pratiques sont réinvesties des questions écologiques, évidemment, et des questions de pollution, notamment à travers les grandes histoires qui sont remontées ces dernières années, comme les boues rouges, par exemple, de Gardanne, mais l'histoire des boues rouges remonte au début par les usines, notamment à Lussuisse, qui sont, elles, à quelques mètres du ruisseau des Égalades. Donc là, il y a encore un autre croisement, je crois, avec
bien
toi,
sûr.
Clélia, qui a une œuvre qui traite des boues rouges dans ton exposition.
Tout à fait. Il y a aussi un point de croisement, avant de revenir à ce que tu évoques sur les boues rouges, par rapport aussi aux différents projets qu'on porte ici tous les trois. Je pense que c'est assez intéressant de se dire aussi que ces trois projets essaient de regarder un petit peu une partie peut-être du paysage et du territoire qui est aussi un petit peu négligée. C'est vrai que Marseille est une ville qui est souvent connue, promue, représentée par tout son lien avec sa façade maritime, avec son lien avec la Méditerranée. Marseille souvent sur une image un petit peu de carte postale, ça va être aussi les calanques et la mer. Et chacun des projets qu'on porte sont aussi des projets qui vont regarder un petit peu entre guillemets, l'envers du décor, si je peux dire, et particulièrement d'autres sources d'eau à Marseille, donc les cours d'eau comme vont être l'Uvonne ou les Égalades, et de considérer un petit peu tous les récits qui sont rattachés à ces ruisseaux, à ces bassins versants, qui sont des histoires souvent, d'une part, de pollution assez importante, mais qui sont aussi souvent des histoires un petit peu oubliées, alors qu'il y a beaucoup d'habitants et de citoyens qui cherchent à s'en emparer. Donc vous aussi, dans les deux projets que vous portez, il y a quand même un aspect citoyen qui me semble vraiment crucial dans les actions que vous avez mises en place. Et donc ensuite, pour revenir à la question des boues rouges, alors c'est vrai que dans l'exposition Spoiled Water Spilled, on a invité une artiste locale, Elvia Teotsky, à explorer ce sujet. Du coup, elle a passé vraiment énormément de temps à faire beaucoup de recherches. Et je dois dire que Elvia, dans son approche, est aussi vraiment à la fois sur un registre sensible et très poétique, mais également sur un registre citoyen, parce qu'elle a passé beaucoup de temps aussi bien avec les habitants de sites proches de sites de dépôt et de stockage de boues rouges, qu'avec des sociologues, qu'avec des activistes, qu'avec différents types de chercheurs pour vraiment un petit peu aller fouiller ce sujet. Après, évidemment, aussi elle-même, à travers sa propre pratique artistique, elle travaille énormément sur des questions de dépôt. Elle travaille beaucoup avec le vivant, elle travaille beaucoup avec la question de prélèvement. Donc en fait, elle a été vraiment fouillée différents sites de stockage parce que, évidemment, alors il y a d'une part les boues rouges ont pollué des rivières, donc comme les Égalades, mais également le parc national des Calanques, comme on le sait, dans le canyon de Cassidaigne. Mais il y a aussi tout autour de Marseille tout un tas de sites de stockage, même des sites assez anciens, des terrils donc, qui aujourd'hui peuvent être recouverts par des collines justement végétalisées, qui sont un peu intégrées au paysage urbain. Et puis après, il y a aussi des vieux sites à Vitrolles, par exemple au Stadium, mais également les sites de Gardanne. Donc Elvia a proposé tout un travail de prélèvement et puis de mise en évidence, je dirais, de ces polluants invisibles, parce que une autre question importante aussi dans l'exposition qu'on a organisée au BNM, et je pense que c'est aussi des choses qui viennent un petit peu croiser dans vos projets, c'est toute cette question du cycle de l'eau. Parce que quand on considère l'eau, souvent on a plutôt tendance à penser à l'eau dans son état liquide, mais évidemment il y a aussi tout un cycle qui est impliqué, que ce soit aussi bien la façon dont l'eau va ruisseler dans les sols, pénétrer les nappes phréatiques, mais aussi la façon dont l'eau s'évapore, revient sous forme de pluie chargée en particules. Donc il y a aussi tout ceci qui est extrêmement important, et je pense que le projet d'Elvia Teotsky vient vraiment jouer aussi sur tous ces différents niveaux de lecture. Donc elle a proposé trois œuvres pour l'exposition, qui ont tout aussi un petit peu joué avec l'architecture du Ballet National de Marseille, qui est assez spécifique. Voilà, donc ça, c'était un exemple assez précis, voilà, sur une pollution qui nous touche beaucoup dans la région. Et je serais assez curieuse, Pierre et Geoffroy, d'en savoir un petit peu plus, vous aussi, sur le côté artistique. Alors, par exemple, Pierre, je sais qu'il y a des œuvres spécifiques pour chacun de ces points cardinaux. Je ne sais pas si tu veux en dire un petit peu plus, par exemple.
Alors oui, effectivement, c'est là que j'aurais aimé que l'artiste Olivier Nat soit avec nous. Malheureusement, il s'en excuse, il a été retenu, là, des souffrances ces jours-ci. Mais donc, il sera bientôt de retour parmi nous. Olivier Nat est un artiste un artiste plasticien qui travaille déjà depuis plusieurs années sur des problématiques sociales et écologiques. Il a participé à la création, a créé un jardin mandala dans une autre région, la française. Il a ouvert récemment un restaurant solaire à Marseille, du côté de la rue de Lyon. Donc c'est aussi pour cela qu'on l'a choisi, pour son intérêt, pour ses problématiques écologiques. Et voilà, il nous a été présenté par Romain Criquet de l'association Culture Permanente, avec laquelle on a aussi commencé à travailler. Et voilà, Culture Permanente aussi qui s'intéresse beaucoup aux zones de lisière. Hein. Tout à l'heure, je crois que c'est Geoffroy qui parlait d'interstices. Mmh. Effectivement, ça nous parle beaucoup. Nous, on voulait, à travers ce projet, travailler notamment cette question de l'articulation ville-nature et l'œuvre d'Olivier Nat. Bon, je préfère inviter les gens à aller à la Cité des Néries dans le 11e arrondissement la découvrir, mais elle met l'accent aussi sur peut-être, on parlerait mieux que moi, mais en tout cas, moi, je vois au travers son œuvre une suggestion de certaines alternatives. Hein. Il y a effectivement un certain nombre de problèmes, de pollution qui sont bien présentes à Marseille comme dans beaucoup de grandes métropoles. Mais il y a aussi certaines solutions qui émergent. On est quand même frappé de voir à Marseille le développement quand même assez important. Et là, c'est quand même positif cette fois-ci, autant le noter, des différents jardins partagés ou jardins collectifs, le développement de l'agriculture urbaine. L'œuvre d'Olivier Nat, effectivement, qui est aussi une œuvre conviviale, met l'accent sur cette problématique, sur cette question de l'agriculture urbaine de manière assez positive, et sur un site qui est certes dans la Cité des Néréides, mais en même temps très proche, avec une très belle vue sur les collines, à la fois les collines de l'Est, bien sûr, parce que là, cette cité est dans le quartier de Saint-Marcel à Valbarel, au pied du Mont Saint-Cyr. On a une superbe vue sur les ruines du seul château fort médiéval de Marseille, il faut quand même le dire, le castrum de Saint-Marcel. Et puis si on regarde dans l'autre sens, on a la vue aussi sur la chaîne de l'étoile au nord. Et on aime bien, dans le cadre du projet Colline en Ville aussi, inviter à ces regards croisés, redécouvrir le nord depuis l'est et vice-versa. Et puis on espère poursuivre avec le sud et l'ouest. Sur le Frioul, on aimerait, et là on recherche des artistes intéressés, donc si Geoffroy directement ou Clélia peut nous en présenter, qui sont intéressés pour travailler sur la suite de Colline en Ville l'année prochaine au sud et à l'ouest au Frioul, on aimerait justement une œuvre qui parle de des problématiques du double SOS Méditerranée, moi j'ai envie de dire. Le double SOS Méditerranée, c'est bien sûr la question des naufrages en Méditerranée, mais c'est aussi la pollution par le plastique qui bien souvent vient de l'intérieur des terres, véhiculée par les cours d'eau, qui effectivement cause de graves dommages à la Méditerranée. Et pour nous, on a envie aussi dans ce projet de ne pas séparer les problématiques dites environnementales des problématiques sociales. On essaye d'avoir à cœur de relier vraiment aussi ces deux problématiques. Voilà.
Ça me fait directement rebondir parce que j'étais justement en train de me dire que je pense que quand les artistes veulent s'emparer de la question écologique, ils en passent apparemment toujours par le dialogue avec la société civile, et que ça ne se fait jamais seul dans son coin, et que dans chacun des projets que j'entends et dans celui que je propose aussi, il y a un rapport assez étroit avec les citoyens, les scientifiques, les aménageurs, et que finalement ça émane de là. Et alors peut-être comment faire autrement en fait. Aujourd'hui, moi je me suis beaucoup posé de questions les pieds dans l'eau quand je voyais justement ces amas de macroplastiques, en l'occurrence, qui vont devenir les microplastiques qu'on connaît après en Méditerranée et diffusés. Je me suis beaucoup posé la question des frontières qui existaient, ou des vieilles frontières, ou en tout cas dans mon cerveau, entre le beau et le laid, et entre le sale et le propre. Et du coup, j'avais beaucoup de mal à représenter ce sale en faisant du beau. Enfin, il y avait une sorte de... Comme ça, j'étais un peu perturbé par cette ambivalence, jusqu'à ce que je finisse quelque part par me libérer un peu de ça, en me disant, c'est le ruisseau, en fait. C'est lui qui est comme ça aujourd'hui. Le respecter aujourd'hui, c'est ni l'embellir, ni le stigmatiser. Et donc, c'est le prendre dans son entièreté et dans sa beauté tout entière qui inclut le plastique aujourd'hui. Et en fait, ça a été assez agréable ensuite de se libérer de ces schémas un peu modernes, pour pouvoir retisser un lien en fait avec le lieu de manière assez directe en fait et honnête, je dirais, enfin je sais pas, quelque chose d'assez oui voilà, direct, c'est le mot le plus simple que je pourrais employer. Et notamment aussi la question du récit. Je trouve que dans tous ces projets-là naissent des récits, et je pense que c'est probablement parce qu'on a besoin de grands récits aujourd'hui, ou de nouveaux grands récits pour nous aider à penser ces problématiques qui nous met toujours dans un état, enfin moi, de dubitatif, c'est-à-dire que faire, à quel niveau, pourquoi faire, et c'est vrai que ça repose la question de l'artiste au sein de la société. Mmh. Et c'est vrai que dans des projets comme ça, on se retrouve une forme d'utilité. Le mot est un peu... voilà, l'utilité de l'art, c'est pas forcément la bonne question, mais en tout cas, personnellement, on se ressent participer à quelque chose, et c'est très puissant, je trouve.
L'artiste citoyen.
Peut-être, enfin oui. Ouais. En tout cas, pas dans sa tour d'ivoire, quoi. Enfin, pas déconnecté, pas dans son atelier, pas voilà, en dialogue, en fait, c'est tout.
Mm. Je pense que c'est assez intéressant. T'as vraiment évoqué beaucoup de choses là, parce que d'une part, la question un petit peu de l'esthétisation de la catastrophe écologique est quelque chose qui est assez prégnant, je trouve, parce qu'il y a quand même aussi une certaine médiatisation, parfois on va dire, de la catastrophe écologique, qui passe souvent par des images chocs qui au final sont souvent très belles. Et c'est vrai que ça, c'est aussi une thématique, il y a pas mal d'artistes dans l'exposition qui sont venus un petit peu décortiquer tout ça, on va dire. Donc il y a notamment un duo d'artistes, Marjoline Dichman et Toril Johansen, qui ont filmé en fait à travers un microscope des eaux saumâtres du fjord intérieur d'Oslo. C'est-à-dire, c'est un endroit où il y a des eaux salées et des eaux douces qui se rencontrent, et en fait c'est un écosystème assez particulier. Et ce qu'on voit en fait, c'est à la fois une vidéo et des photographies, c'est plein de petits micro-organismes, des algues, des bactéries, mais on voit également parfois des particules, des microplastiques, et puis il y a évidemment tous ces polluants invisibles qu'on ne peut pas voir. Et c'est très beau, c'est très très beau, et c'est vraiment intéressant d'aller peut-être aussi questionner un petit peu ce rapport. Donc j'aime bien, Geoffroy, quand tu dis qu'il y a aussi un rapport peut-être un petit peu direct, de aussi prendre les choses comme elles sont. Voilà, ce ruisseau des Égalades, t'as pas voulu en faire quelque chose d'autre que ce qu'il est. Et ça m'amène à aussi autre chose qui, je pense, est tout à fait évident dans aussi les différents projets que chacun de nous porte ici, qui est cette question au final de comment on habite en fait les paysages et les territoires dans lesquels on se trouve, parce que malheureusement, bah, les pollutions, alors si on parle du thème des pollutions par exemple, se superposent les unes aux autres. Il n'y a pas une pollution qui peut être séparée du reste, et c'est assez intéressant parce que en fin de compte, il faut aussi peut-être apprendre à vivre avec ça et voir ce qu'on peut faire pour changer. Et c'est intéressant que du point de vue citoyen, il y ait cette prise de conscience, il y ait aussi partager en fait les prises de conscience qui sont faites. Donc oui, peut-être que l'artiste citoyen, ça fait sourire, mais je pense que c'est quand même assez
on en a besoin.
Important, et on en a
les
besoin.
Artistes citoyens.
Voilà. Et avant de te passer la parole, peut-être ce qui nous intéressait aussi dans l'exposition et dans le fait de la faire au Ballet National de Marseille, c'est que le bâtiment accueille également l'École Nationale de Danse de Marseille, le NDM, où il y a donc beaucoup d'étudiants et d'élèves. Et en fait, on avait aussi envie que ces étudiants et ces élèves puissent vivre un petit peu avec cette exposition qui parle de thématiques pas très drôles, on va dire, pour des enfants ou des adolescents, mais ils sont vraiment en première ligne. Et c'était intéressant parce qu'on a collaboré avec une classe d'élèves de 11-12 ans. Et quand on leur a présenté le projet, il y a beaucoup d'élèves qui ont demandé « Mais comment on peut faire pour que les gens ils soient au courant qu'il y a des pollutions? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire changer ça ?» Et en fait, c'était intéressant parce que vraiment, dans cette question, avec tout ce qu'elle peut avoir de belle naïveté, je dirais, il y avait vraiment aussi cette envie qui manifestaient, de faire en sorte que le plus de gens possible soient au courant. C'est peut-être aussi pour ça que ce genre de projet, ça fait vraiment sens. Et je pense que c'est sans doute des expériences que vous vivez au quotidien aussi. Bon, surtout par exemple avec Colline en Ville et Riviculture, parce que c'est vraiment quelque chose qui est au cœur aussi de votre action.
Oui, tout à fait, Clélia. C'est vrai que tu poses la question là de qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui habiter, habiter en ville. Nous, en Riviculture, c'est vrai qu'on... nos projets se développent aussi beaucoup à l'occasion de marches. On arpente le territoire, on le redécouvre. Et c'est vrai qu'en partant du local, on retrouve aussi... Enfin, l'international est des territoires plus vastes. Et souvent, on a tendance à opposer local, international. Et nous, on pense que c'est très, très, tout ça est très, très lié. On le voit au travers de la problématique de l'eau, effectivement, où... que ce soit les polluants ou de manière plus positive, peut-être certaines espèces animales peuvent voyager au fil de l'eau. Donc cette idée d'interdépendance des territoires qu'on retrouve dans la notion de bassin versant. Hein. Le bassin versant, ben voilà, c'est effectivement tout le territoire qui est concerné par un cours d'eau donné, donc les petits ruisseaux qui aboutissent dans la rivière ou le fleuve. Et voilà, cette interdépendance des territoires qui nous marque beaucoup à Riviculture. On a toujours essayé de développer des projets, finalement, qui pensaient les quartiers Est en relation avec des ensembles plus vastes. Grâce à la Fondation de France à l'époque en 2013 et aux artistes Lucie Roré-Horta que je salue et qui reste très présent dans nos cœurs, on a pu effectivement avec ce travail avec Luvonne penser le lien entre Marseille et enfin les quartiers Est et puis finalement tout l'Est de la Provence et même un projet interdépartemental puisque la source est dans le Var. Et puis là, avec Colline en Ville, on travaille effectivement avec l'ensemble des différents quartiers marseillais sans s'interdire effectivement de voir plus loin. Je disais tout à l'heure, le Nord, c'est marque pour nous la direction des Alpes. Et les Alpes, c'est de là que vient l'eau que l'on boit à Marseille, hein, qu'elle arrive. L'eau de la Durance qui arrive par le canal de Marseille ou l'eau du Verdon qui arrive par le canal de Provence. C'est quelque chose là d'important. Si on voit une époque plus ancienne, jusqu'au XVIIIe siècle, les Marseillais buvaient l'eau de Luvonne. Et c'est justement du fait des nombreuses pollutions que ça n'a plus été possible. Alors ces dernières années, l'eau de Luvonne, la qualité de l'eau s'est améliorée grâce aussi au travail de nombreuses associations, du syndicat intercommunal du bassin de Luvonne, des mobilisations des communes concernées. Mais voilà, il y a encore du chemin, c'est sûr. Voilà, donc c'est question d'interdépendance. Et puis tu parlais du cycle de l'eau et des polluants qui se déplacent aussi, voire qui se transforment. Là, c'est problématique de transformation, la transformation de la ville, les transformations urbaines. C'est des grandes notions auxquelles aussi on est confronté dans notre pratique du territoire.
Ça me fait rebondir évidemment tout de suite puisque le ruisseau des Égalades, son bassin versant, c'est les quartiers nord. En fait, quand on regarde la carte du bassin versant du ruisseau des Égalades, c'est assez incroyable comme ça forme déjà un ensemble. Et le texte de Baptiste Lanaspès, qui était en introduction du livre, qui est une fiction, et qui propose de regarder le bassin des Égalades en 2030, lorsqu'il aura fait sécession, et qu'il aura, qu'il se sera autonomisé sous la forme d'une commune indépendante, et dont dans le petit texte, il raconte comment la prochaine action sera la fermeture de l'autoroute Nord. Et du coup, ce bassin versant, effectivement, forme déjà une entité. Les études de biorégionalisme des années 70 le présentaient déjà, en fait, comme la seule entité valable pour habiter ensemble. Et que, évidemment, ça soit tourné autour de l'eau. Ça semble tellement logique et ça semble tellement absurde aujourd'hui de penser qu'un jour, on a pu se dire que dans le bassin versant du Jarret, on allait construire une autoroute, quoi. Comment est-ce que... Moi, c'est vraiment une question que je trouve tellement... dingue d'avoir pensé qu'un lit de rivière pouvait servir à une autoroute, comme si c'était un espace libre de la carte. D'ailleurs, les espaces agricoles sont considérés de la même manière aujourd'hui. C'est des taches blanches, en fait, non répertoriées. Ça change un petit peu. Mais mais considérer que ces espaces sont des espaces à urbaniser, c'est, on revient quand même de très 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 loin. Et justement, la question de ces pollutions dans ces bassins versants, évidemment, sont très fortes. Dans le ruisseau, ils sont assez clairement définis. Tout à l'heure, tu parlais justement de développement urbain. Si on s'intéresse aussi au ruisseau des Aiglages aujourd'hui, c'est que la deuxième phase de Romed compte s'appuyer sur le ruisseau pour construire le fameux grand parc qui aura lieu sur la gare du Canet. Donc c'est aussi à ce titre-là que les citoyens et que les habitants se mobilisent autour du ruisseau pour dire attention, si vous faites repasser la rivière au milieu d'un parc, dans quoi vont se baigner les enfants? Donc si c'est pour nous remettre l'eau de la Durance qui coulerait avec un robinet, alors que il est urgent de repenser la naturation de ce ruisseau pour que les choses soient cohérentes en fait, tout simplement, et revenir en arrière sur les espèces d'absurdités des Trente Glorieuses.
Mais ce qui est très compliqué aussi avec ces questions de pollution, c'est que la plupart du temps, d'une part, il y a assez peu d'enquêtes ou d'études qui sont réellement menées pour bien comprendre en fait quel impact précis ces pollutions ont sur tout un tas de domaines différents, que ça puisse aller du domaine de la santé publique à l'impact sur les sols, à l'impact sur les cultures, à l'impact atmosphérique, etc. Et puis l'autre problématique, c'est que très souvent, on ne sait pas en fait comment dépolluer, ou on ne sait pas exactement comment recycler, ou comment faire en sorte que ces espaces qui ont souffert en fait au long de plusieurs décennies de pollution, comment on peut faire en fait pour revenir en arrière, ou en tout cas revenir à un espace plus propre. Ouais, tu parlais du sale et du propre tout à l'heure. Et c'est ça qui est vraiment assez compliqué, c'est que ça nécessiterait aussi des moyens économiques, des politiques concertées. Et l'action des citoyens est très importante, l'action des associations est très importante, l'action des artistes est très importante, mais c'est vrai qu'il faudrait aussi pouvoir prendre tout ça d'une manière un petit peu plus large. Et malheureusement, il y a aussi beaucoup de projets urbains qui ne s'intéressent pas vraiment à toutes ces questions-là.
Pour le moment, Euroméditerranée semble être volontaire sur cette question, accompagnons-les. Mais toute la question est de rester vigilant. Et évidemment, en tout cas sur le ruisseau, ne serait-ce que le traitement du Crassy des Aiglades, pour revenir au bout rouge, j'imagine que c'est un gros point d'interrogation, c'est-à-dire qu'il y a un tel volume situé à un endroit compliqué au centre de la ville, etc. Effectivement, il ne faut pas être naïf, c'est extrêmement compliqué de penser renaturation comme ça, d'un coup de baguette magique. Quoi.
Alors si je peux aussi juste dire une chose par rapport à ça, puis aussi un petit peu, Pierre, tu parlais d'interdépendance tout à l'heure, je pense que c'est aussi important de se dire que les frontières telles qu'on peut les imaginer à un niveau politique ou administratif, pour toutes ces questions-là, en fait, c'est des frontières un petit peu fictive, puisque malheureusement ou heureusement, mais les eaux se déplacent en n'ayant absolument aucune conscience de ces frontières fictives administratives un petit peu imposées, on va dire. Et donc c'est aussi intéressant parce que souvent quand on essaie de considérer un territoire sur lequel il y a aussi des actions à mener, il faudrait pouvoir considérer ça d'une façon un peu plus large. Donc j'ai beaucoup aimé que tu parles aussi de cette question d'interdépendance, parce que souvent c'est vrai que il y a en fait tout un réseau de mise en dialogue, mais de mise en circulation aussi qui existe. Et c'est aussi un point qu'on a pas mal abordé dans l'exposition au Ballet National. C'était justement le fait que les polluants ne s'arrêtent pas aux frontières et que tout circule. Et que tout circule en fait dans beaucoup de directions différentes.
Voilà. C'est bien, je trouve, de le rappeler dans la période actuelle, hein, où on reparle beaucoup des frontières. Oui, par rapport à cette question de ces efforts pour une dépollution, là, notamment des cours d'eau. Moi, c'est vrai que là, j'ai plus en tête les auteurs qui a incité à réfléchir à cela, mais poser la question de savoir qu'est-ce qu'on recherche finalement au travers de cette dépollution. Est-ce qu'on recherche uniquement à faire propre, à faire beau, ou est-ce qu'on est prêt à faire une place à la nature dans la ville, même si le terme de nature aussi, en ce moment, on voit, il y a pas mal de débats, il y a toute une ébullition là sur cette question. Et bon, moi, je trouve que c'est assez stimulant aussi comme... comme questionnement. Bon, après, c'est vrai que faut faire front dans différents domaines, hein, par les temps qui courent. Et donc, c'est vrai que parfois, bon, on se dit, c'est pas évident, mais en même temps, voilà, c'est question de vu la vitesse de disparition des espèces, de cette biodiversité, on se dit que c'est quand même si la branche sur laquelle on est assis. Donc, même si on est tous accaparés par des soucis de quotidien, etc. C'est le fameux débat de comment essayer d'éviter la fin du monde tout en arrivant à boucler les fins de mois. Mais bon, voilà, en repensant à différents thèmes de l'actualité là, du moment, j'essaie de voir aussi les impacts sur notre quotidien avec le confinement, justement. On avait moi je fais partie avec plusieurs habitants aussi, membres de Riviculture, on avait la chance d'habiter près des collines. Et du coup, c'est vrai que ce projet a pris une résonance toute particulière, parce que pour nous, ça a été vraiment, qu'habitions à moins d'un kilomètre de la colline, ça a été vraiment une bouée d'oxygène. Et puis, en étant dans l'obligation de s'intéresser finalement à vraiment l'hyper-local, l'environnement immédiat, on s'est mis aussi à redécouvrir de nouvelles choses, comme quand on essayait de se mettre à l'écoute de l'Uvonne pour nous donner des idées avec du Ciroré. Ça avait donné le projet Le Chemin des Fées. Là, c'est vrai qu'on était attentif au chant des oiseaux, à force de fréquenter les mêmes lieux à différentes heures sur les espaces en lisière. Un jour, on se mettait à rencontrer un hérisson. le lendemain, c'était le sanglier. Enfin, pas le lendemain, mais il faut être un peu plus patient, jusqu'au renard. Donc, et ça, vraiment, sur les bords de ville, ça, je pense que c'est aussi intéressant à faire connaître aux enfants. Bon, le parc des Calanques, qui soutient aussi le projet Colline en Ville dans sa partie est, très intéressé pour travailler sur ces espaces d'interstice et en lisière entre ville et colline, qui intéresse beaucoup, justement, aussi fréquenté beaucoup par différentes espèces animales, surtout au crépuscule.
Écoute, moi aussi j'ai profité du confinement pour aller me réfugier de temps en temps dans le lit du ruisseau où on était à peu près sûr de ne croiser personne et surtout de ne pas enfreindre la loi. Donc, c'est des espaces qui sont toujours, enfin en tout cas le ruisseau, lui, est un espace tellement encore secret. À part la cascade peut-être et peut-être un peu plus haut vers Septem où il est un petit peu plus ouvert, mais en tout cas ça reste un endroit pour les Marseillais qui est vraiment inconnu. Et souvent quand je parle du ruisseau, les gens me disent qu'est-ce que c'est le ruisseau des Égalades, et voilà. Du coup, ça sera la prochaine, on va organiser un petit événement à Zoëm le 14 novembre où on posera cette question à une dizaine de gens très différents pour qu'ils nous racontent qu'est-ce que c'est que le ruisseau des Égalades. Et je trouvais ça drôle aussi que on arrive à dans cette discussion finalement à remonter toujours aux méta-questions des frictions entre l'écologie et l'économie, qui est revenue dans le débat encore à l'occasion de la 5G et de la lampe à huile. Bon, en fait, on en est. Et à Gardanne, c'est toujours le même aussi, avec les Brouges, c'est toujours le même débat. L'écologie contre l'emploi, cette binarité de réflexion nous coince, en fait, et nous oblige à ne plus réfléchir parce qu'on se retrouve dans une impasse. Je ne sais pas comment sortir de ça, mais en tout cas, c'est étonnant comme. Et puis, juste aussi pour rebondir sur le local, moi c'est fou comme que aussi bien par exemple le ruisseau des Égalades que l'étang de Berre que je peux fréquenter par ailleurs sont à chaque fois porteurs des mêmes problématiques mondiales, en fait. Et ça, c'est vrai qu'on peut prendre le problème par le bout de la lorgnette, il dézoomera toujours sur les mêmes problématiques qui, selon moi, sont essentiellement cette binarité entre l'éco et l'éco.
Je suis tout à fait d'accord et je te remercie de mettre ça sur la table, parce que un des points aussi de l'exposition Spoiled Water Spill, c'était vraiment de se dire, bon, comment est-ce qu'on peut penser une exposition qui, évidemment, va se concentrer aussi d'une part sur Marseille et sur toute la situation de la région, mais qui puisse aussi parler plus largement et comment, en fait, dans cette même exposition, on peut inclure des œuvres d'artistes qui viennent d'autres contextes et qui ont travaillé sur d'autres catastrophes ou particulières, ou en tout cas qui travaillent sur certaines pollutions, certaines rivières, et que ça puisse faire sens. Et en fait, c'est vrai que très très rapidement, on s'est vraiment dit que peu importe, en fait, au final, de quel contexte géographique est-ce qu'on parle, parce que c'est des thématiques qui sont beaucoup plus larges, beaucoup plus importantes, et je pense que tout un chacun peut vraiment se reconnaître dans tout ça. Donc c'est vrai que, par exemple, dans l'exposition, on parle aussi bien de la pollution au chlordécone en Martinique et en Guadeloupe, que de la question de la haute mer dans le droit international, que de ces eaux saumâtres dans le fjord d'Oslo, que des boues rouges donc, dans la région, mais aussi que de la pollution en mer Rouge, par exemple, en Égypte. Donc les thématiques peuvent sembler, enfin, les exemples peuvent sembler extrêmement précis, mais en fait, toutes ces thématiques s'entrecroisent et je pense que pour le public qui a l'opportunité, en fait, de rentrer en contact avec ces projets, c'est vraiment des choses qui vont venir parler. Et par exemple, l'exposition, si tout va bien, devrait voyager en Jordanie en 2021. L'exposition devrait partir à la fondation MMAG à Amman. Et l'idée, ce serait d'inclure justement des artistes jordaniens et des artistes du Moyen-Orient pour venir encore creuser ce sujet en ajoutant encore d'autres récits et d'autres géographies à tout ça. Et je te remercie, Geoffroy, parce que c'est tout à fait vrai de penser qu'on peut partir d'un exemple précis et aller aborder ces méta-questions, comme tu disais.
Enfin, Riviculture, il y a quelques, enfin, il y a encore 2-3 ans, on avait organisé, grâce à l'association interculturelle, un projet d'échange entre vallées côtières de Méditerranée, auquel différentes associations de protection de l'environnement et associations de jeunesse avaient participé. On avait été très fiers de pouvoir accueillir ces associations de tout le pourtour méditerranéen sur une des fêtes de l'Uvonne qui était organisée avec le collectif Association Uvonne dans les quartiers est de Marseille. Donc je pense que c'est... Eux, ça les intéressait aussi de voir nos pratiques. Et nous, on s'est aussi enrichi des leurs. Et je crois que c'est ça, effectivement, le sens aussi de la solidarité internationale et de la coopération internationale. C'est l'idée de l'aide. C'est aussi travailler ensemble sur des sujets d'intérêt général. Et des associations, des citoyens peuvent aussi s'en emparer. Alors... peut-être revenir sur une chose qu'on disait tout à l'heure auquel je pense, là, excusez-moi, je vois que le temps passe et donc il y avait une ou deux idées encore un sujet que j'aurais aimé aborder. Et tout à l'heure, c'est vrai Clélia, tu parlais de Marseille en parlant de la carte postale. C'est vrai que au travers la problématique de l'eau, du thème de l'eau, c'est vrai que ça invite à une redécouverte de Marseille aussi, parce que souvent Marseille, on dit l'eau, c'est la Méditerranée, mais l'eau à Marseille, c'est aussi effectivement l'Uvonne et les Galades, et donc les collines aussi qui entourent le bassin versant de ces cours d'eau. Et c'est aussi au travers les canaux que j'évoquais tout à l'heure, l'eau qui nous vient des Alpes, et s'intéresser à ces autres dimensions de l'eau, c'est aussi une invitation à redécouvrir Marseille. On sait que le canal Marseille fait le tour de Marseille par sa périphérie. Donc on peut... il n'est pas toujours des parties ouvertes, des parties fermées. C'est une problématique aussi importante, je trouve, à Marseille. Nous, au départ, le projet Colline en ville, on a eu cette idée des quatre œuvres signal pour essayer aussi de symboliquement, du moins, de rassembler une ville qui est très fragmentée, qui est quand même minée aussi par ces inégalités. Et pour nous, les collines, c'est aussi, tout comme l'Uvonne des Égalades, un bien commun qu'il faut effectivement protéger et autour desquels on peut peut-être les citoyens peuvent se retrouver.
Ça me faisait penser que décidément les choses sont très enchevêtrées parce que cette fameuse eau de la Durance cause quand même tous les problèmes de l'étang de Berre par ailleurs.
Ah bon?
Par les déversements intempestifs de l'usine EDF qui s'alimente d'un canal d'eau de Durance. Et que les lâchers d'eau douce dans l'étang de Berre qui sont absolument gigantesques et assez peu transparents de la part d'EDF causent par ailleurs énormément de problèmes écologiques. Donc c'est marrant comme tout quand même est compliqué, c'est-à-dire que à la fois effectivement nous buvons cette eau probablement parce que nous avions mis les ruisseaux d'ici en danger et que la ville grandissante en avait besoin de plus d'eau pour amener l'hygiène, et que maintenant, elle, cette même eau cause des problèmes, et d'ailleurs cause des problèmes aussi à la Durance plus haut, parce qu'on la ponctionne trop. Donc, voilà, tout est effectivement toujours une histoire d'eau, et donc une histoire de colline.
Oui, c'est vrai que il y a cette double face hein, de l'eau. Avec l'Uvonne, le nom primitif de l'Uvonne, c'est Ubelka, et pour les Gaulois à l'époque, l'Uvonne était une déesse à la fois nourricière et dévastatrice. On pense évidemment aux crues, hein, et voilà, c'est vrai qu'il y a toujours cette complexité, c'est double face, oui.
Mais ça se retrouve d'ailleurs un petit peu, Geoffroy, dans le titre de ton travail, La mauvaise réputation. C'est aussi un titre que je trouve très intéressant et très évocateur, parce que on parle aussi un petit peu de cette duplicité.
Oui. En fait, je l'ai trouvé parce que j'ai trouvé à l'intérieur du ruisseau un disque de Brassens et c'était La mauvaise réputation.
Il y a aussi un livre de Olivier Bourrat, je crois, qui s'appelle Marseille ou la mauvaise réputation et qui est assez intéressant. Et donc, du coup, je repensais à ce petit livre que j'avais lu en voyant ton exposition photo, Geoffroy. Très, très intéressante, elle aussi.
Moi, je vais conclure par une invitation, du coup. Et donc, je réitère mon invitation pour le 14 novembre à la librairie Zoem, dans laquelle nous programmons une rencontre entre tous les acteurs du collectif des Gamards, donc ce collectif citoyen qui s'est monté pour prendre soin du ruisseau. Et au cours de cette invitation, on posera la question à chacun d'eux, qu'est-ce que le ruisseau des Égalades ? Et l'exposition est à voir encore jusqu'à la fin novembre.
Alors, décidément, le 14 novembre, ça se profile comme étant une journée intéressante, puisque je crois que cet événement-là, je crois que tu nous invites, c'est à 18h, le samedi 14 novembre, c'est ça ?
Tout à fait.
Alors, un petit peu avant, en centre-ville, un petit peu avant dans l'après-midi, pour ma part, et au nom de Riviculture, et de mes collègues de Riviculture, Isabelle, Gisèle, Liliane, Anne-Marie, Josiane notamment, hein, donc beaucoup de femmes, vous le remarquez. Donc nous vous proposons, en compagnie aussi de l'artiste Roland Bellier, de découvrir sa sculpture La Source Fossile du côté de Sainte-Marthe. Bien sûr, vous aurez plus d'informations sur le site de Manifesta Les Parallèles du Sud, puisque le projet donc Colline en Ville, porté par notre association Rives et Cultures, est soutenu par Manifesta, par la région, par le Parc National des Calanques, par Habitat Marseille Provence, par la Fondation Steen Acri, j'espère que là j'ai oublié personne, par le département des Bouches-du-Rhône, et nous l'espérons par la ville de Marseille, par rapport au site là que nous... sur lequel l'œuvre est prévue. Donc c'est toujours en point d'interrogation, mais on espère pouvoir effectivement vous accueillir le 14 novembre. Donc regardez le site de Manifesta, j'espère que cette date pourra être confirmée. Et avant le 14 novembre, bien sûr, vous pouvez toujours à l'Est découvrir l'œuvre d'Olivier Natt, le signal de l'Est de Riviculture, mais le nom plus précis de l'œuvre est Faire avec Ziva. Voilà, merci.
Et Geoffroy, je t'en
prie. Non, j'ai encore une autre invitation au nom du collectif. C'est pour les événements qu'ils organisent tous les premiers dimanches du mois à la Cité des Arts de la Rue pour visiter la cascade et entendre les conférences voix d'eau organisées par le GR 2013.
Et pour ma part, l'exposition Spoiled Waterspilled au Ballet National de Marseille s'est conclue ce vendredi. Vous n'aurez donc malheureusement pas l'occasion de la voir si vous n'aviez pas visité. En revanche, vous pouvez trouver encore des informations sur l'exposition sur différentes plateformes. Alors d'une part, nous avons collaboré avec la plateforme oceanarchive.org sur laquelle vous pourrez trouver des podcasts qui ont été réalisés avec quatre artistes de l'exposition qui ont également contribué avec des vidéos par exemple à cette plateforme. Donc le contenu restera en ligne pendant les prochains mois et sera normalement actualisé lorsque l'exposition voyagera en Jordanie en 2021. Et par ailleurs, une brochure a été réalisée pour l'exposition que vous pourrez trouver en ligne, je pense, sur mon site web. Et dans cette brochure, alors je vous invite à la lire parce qu'elle rassemble plusieurs textes qui sont assez importants. D'une part, il y a des... lettres, témoignages qui ont été ajoutés par René Char à la fin de sa pièce de théâtre « Le soleil des eaux », spectacle pour une toile de pêcheur. Donc en fait, c'est une pièce de théâtre dont je n'ai pas eu l'occasion vraiment d'en parler jusqu'à présent, mais où il s'interroge sur la pollution de la sorgue par des usines à papier au début du XXe siècle. Et il a adjoint deux très très belles lettres témoignages d'un garde des eaux et d'un pêcheur qui ont été reproduites donc, dans la brochure de l'exposition. Vous trouverez également des extraits de l'Atlas de la France toxique par l'association Les Robins des Bois, qui est un livre qui a été publié en 2016, dans lequel en fait vous trouverez des cartes de différentes pollutions en France, donc que ce soit à la métropole ou également dans les dom-tom. Et en fait, pour chaque pollution, vous avez un petit texte adjoint. Donc vous trouverez aussi dans la brochure des textes sur la pollution à Marseille, sur la pollution au chlordécone, mais également sur la pollution des rivières avec les PCB ou les cyanobactéries, par exemple. Voilà. Merci à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de votre attention. C'était un plaisir d'être avec vous ce soir.
Merci. Au revoir.
Merci, au revoir. À bientôt.